Une vie, une œuvre. Bonjour et bienvenue. Notre portrait aujourd'hui, celui de l'écrivain allemand W.G. Sebald, 1944-2011. Au moment où Sebald naît dans un petit village retiré de Bavière, les bombes s'abattent sur l'Allemagne. La guerre, les troubles de la mémoire allemande, ses ravages dans les têtes et les corps, voilà ce qui deviendra le sujet de l'écrivain devenu adulte. Son rapport à sa patrie d'origine restera d'ailleurs toujours compliqué. À 22 ans, il s'exile volontairement d'abord à Manchester, puis à Norwich, où il enseigne ses auteurs de prédilection, Kafka, Walser, Bernhardt, et ce jusqu'à sa mort tragique dans un accident de voiture à l'âge de 57 ans. Formellement, ses livres sont inclassables. Les émigrants, les anneaux de Saturne, Austerlitz, sont des ovnis dans le paysage littéraire, fruits de montage de textes et d'images, télescopage d'époques et de lieux. Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau nous dressent aujourd'hui le portrait de ce promeneur mélancolique qui chassait les souvenirs comme on chasse les papillons.
Ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est comment celui que j'avais connu jeune, qui était vraiment d'une beauté, grand, brun, avec les yeux d'une couleur comme la mousse, marron vert, comme de la mousse avec des paillettes dedans. Je trouvais ça très très beau. Et à l'époque où je l'ai connu, il n'avait pas du tout encore de moustache. Il m'a bien dit que la moustache qu'il la portait, c'était en hommage à son grand-père Joseph. En fait, il était grand, en plus il était sportif, donc il était intelligent. En fait, quand je l'ai revu, il était connu, il était riche, il était marié, il avait des enfants, une fille. Et il se trimbalait un air d'une tristesse que je... Et avec l'esprit comme je l'ai, j'avais envie de comprendre pourquoi il était comme ça à se trimballer, absorbé triste, préoccupé triste par des idées noires. Oui, oui.
Il vient donc d'un petit village en Bavière. Et il a été fortement marqué par ses origines campagnardes, montagnardes, dans un petit village coupé du monde. Et parfois, enfin souvent dans sa littérature, on sent une sorte de nostalgie de ce monde qui n'existe plus. Et il en parle avec beaucoup de poésie.
Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans cette vallée, elle est extraordinairement belle à cause de ces montagnes qui sont vertes et les fameuses vaches d'Allgäu qui sont brunes, très jolies. Du reste, Max voulait un fauteuil de la couleur de la robe des vaches d'Allgäu.
W.G. Sebald, une émission de Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau.
En même temps, il décrit ses origines comme des origines d'une catastrophe, d'un grand malheur qui serait lié à sa naissance.
Ruth Vogelklein.
Et c'est un peu amusant parce que, par exemple, Goethe, quand il écrit son autobiographie « Poésie et vérité », il décrit qu'il était né sous une très bonne constellation et que c'était un excellent présage. Et alors que Sebald écrit qu'il est né sous le signe de Saturne, qui donne aussi le titre à un de ses livres, c'est la planète noire, de la mélancolie, et Sebald était quelqu'un qui était réflexif, mélancolique.
L'Allemagne paye, l'Allemagne souffre, l'Allemagne récolte ce qu'elle a semé. L'aviation américaine de jour, la RAF de nuit, appareil vers cette terre aujourd'hui la plus bombardée du monde. Pendant les 28 jours de février, le Reich a reçu 135 000 tonnes de bombes. Et certains jours, les vagues de bombardiers s'étendaient sur 300 km de long.
Lucie Campos, vous dites de Sebald qu'il avait cette cruelle particularité d'être né après.
Alors effectivement, Sebald est né en 1944, la dernière année de la Deuxième Guerre mondiale, l'année des bombardements des villes allemandes, et donc une année qui a marqué particulièrement la conscience historique allemande et par prolongement européenne. C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez toute une série d'écrivains, et non pas seulement Sebald, caractérisé par le fait donc d'être né après, et donc de ne découvrir le matériau historique de sa génération que par procuration.
Où est l'aviation allemande? Où sont les escadrilles de Göring? Ces nuits longues, ces nuits de 41 où l'Angleterre serrait les dents, ce sont aujourd'hui les nuits de l'Allemagne qui sombrent dans l'incendie d'un terrible jugement dernier.
Ich habe meine Kindheit und Jugend in einer von den unmittelbaren Auswirkungen der sogenannten Kampfhandlungen weitgehend verschonten Gegend am Nordrand der Alpen verbracht.
J'ai passé mon enfance et ma jeunesse dans une contrée des Alpes septentrionales, en grande partie épargnée par les effets immédiats de ce que l'on nomme les hostilités. À la fin de la guerre, j'avais tout juste un an. Je ne saurais avoir gardé de cette époque de la destruction des impressions fondées sur des événements réels. Et pourtant, aujourd'hui encore, quand je regarde des photographies ou des films documentaires datant de la guerre, il me semble que c'est de là que je viens et que tombe sur moi, venu de là-bas, venu de cette ère d'atrocité que je n'ai pas vécue, une ombre à laquelle je n'arriverai jamais à me soustraire tout à fait.
Si je vous dis Ruth Vogel-Klein, Sebald et le W, qu'est-ce que vous me répondez?
Le W, c'est la lettre de son prénom qui correspond au prénom de Winfried. Et alors, lorsqu'on reprend ses cahiers d'écoliers, lorsque j'écoute sa sœur, il s'appelait Winfried. Et à un certain moment, il a décidé que Winfried était un prénom germanique qui avait des relents nazis et dont il voulait se débarrasser. Donc, il a mis W.G.Georg, Winfried Georg.
W, c'est le lieu de la mémoire perdue. Hein. C'est un petit peu l'initiale du non-lieu, finalement. Hein.
Muriel Pic.
Et sans doute que l'initiale W lui convenait tout particulièrement, hein, puisque elle fait référence, bien sûr, aussi à W, ou le souvenir d'enfance, de Georges Perec. Hein. Un ouvrage qui pose des questions qui l'ont certainement arrêté, puisqu'il s'agit de reconstituer une mémoire qui a été détruite par un événement historique.
À cette époque-là, on ne l'appelait que Winfried. Et tous les autres l'appelaient Seb. C'était son diminutif. Mais j'ai su après, quand je l'ai revu, qu'il avait horreur qu'on l'appelle de la sorte. Lui est né en mai 44 et moi, je suis née le cinquième jour de 45. Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Marie, de Sebald, enfant, écolier à Werthard?
Il parlait peu, il faisait déjà des poèmes. Et je me souviens, dans un, ça se terminait « un sarc, sarc, sarc ». Pendant ce temps-là, je lui faisais ses devoirs de maths. Et les devoirs de français, tout ça, c'était assez sympa, oui. Ça a été une forme de paradis. Très curieusement, j'ai trouvé de l'amitié spontanée, aucun formalisme. Et donc, j'allais souvent chez ses parents, à lui. Et je me souviens très bien, je me suis prise à penser que j'aurais voulu avoir des parents comme il en avait. Parce que Frau Sebald était d'abord très jolie, elle était blonde avec les yeux bleus, et puis elle s'occupait bien de la maison, elle repassait, elle faisait la cuisine. Il y avait le père qui rentrait, qui était alors très sombre, lui. Alors vraiment, on aurait pu dire qu'il était vidé de toute substance. Enfin, c'est impressionnant. Donc il était en costume de colonel, puisque vous savez comme moi que Sonthofen est une école Adolf Hitler, et qu'il y avait une caserne.
Comment ça, une école Adolf Hitler?
Eh oui, c'est une caserne en Haute-Sandhofen qui faisait instructeur de SS. C'est fou, hein, de penser. Et ça, je trouve ça très positif. Parce que c'est ça qui a fait l'espèce de rencontre des années après, quand on s'est revus. Alors, je vais plus dire Winfried, il voulait plus qu'on dise Winfried, parce qu'il trouvait que ça faisait trop nazi.
Il n'avait pas du tout une famille nazie, comme des gens ont pu croire, suite au fait que Sebald a beaucoup réfléchi sur l'histoire allemande et qu'il s'est révolté contre le silence de la société allemande par rapport au nazisme et à la Shoah. Mais en fait, cette révolte est dirigée contre cette société allemande dans son intégralité, parce que son père s'est fait élire deux fois de suite comme conseiller municipal social-démocrate. Son grand-père était un cheminot qui militait dans le syndicat des cheminots, et personne dans la famille n'a été nazi.
Mais
le père de Sebald avait été soldat, comme tous les pères de cette époque. Et quand il est revenu, il n'a pas parlé de cette guerre. Par contre, il avait pris des photos, il y avait des albums qui étaient dans la maison, et où le jeune Sebald a découvert des photos qui le mettaient mal à l'aise, qui l'interrogeaient, des personnes dans les pays de l'Est, notamment des personnes derrière des barbelés, une femme tzigane souriant, et des lieux, et c'était tout. Il n'y avait aucun mot sur la cruauté de la guerre, sur les populations persécutées, massacrées, etc. Et en fait, on peut dire que toute sa littérature est une recherche des traces de ce passé qu'on avait eu quand il était jeune.
Dans les œuvres de Sebald, que ce soit les descriptions de paysages ou les descriptions d'objets, tout semble être saturé de traces. Dans chaque objet, on retrouve la trace de quelque chose. On ne saisit pas exactement ce quelque chose, on ne le saisit pas immédiatement, mais la trace nous indique que quelque chose de passé est là, est encore porté dans l'objet ou dans le paysage, comme si le paysage, qu'il soit urbain ou naturel, était saturé d'histoire et d'un passé qu'il faut se réapproprier.
Il a nécessairement écrit sous la couverture de la Shoah.
Georges Arthur Goldschmidt.
D'une manière ou d'une autre, même si ça n'a aucun rapport, on sent de manière lointaine à l'horizon ça. Et c'est ça qui est tellement extraordinaire dans son œuvre et qui donne à cette œuvre cette coloration
de cendre.
Je ne dirais pas mélancolique, de cendre, absolument. C'est ça.
Les Allemands se sont empressés d'oublier ce passé récent.
Patrick Charbonneau.
Pour passer à autre chose, c'était la reconstruction. Hein, l'américanisation, la construction, la société matérialiste. Et lui montre, par l'exemple de sa prose, hein, que ces fantômes, qui étaient bien cantonnés dans leur domaine, réapparaissent à un moment ou à un autre. Alors ils peuvent réapparaître comme des fantômes méchants, ou ils peuvent réapparaître comme des fantômes du souvenir, comme des fantômes qui vous aident à vivre.
Muriel Pic, est-ce qu'il serait exagéré de dire que Sebald, en 1999, publie un essai qui est une véritable bombe?
Non, surtout que l'image est appropriée au propos, hein, puisque Sebald, dans cet essai particulier puisqu'il y a des documents iconographiques, il y a des images, hein, qui ne sont pas légendées, ce qui est toujours inattendu pour l'essai, surtout venant d'un professeur de littérature allemande, soutient la thèse que ni les écrivains, ni les historiens n'ont laissé de témoignages de l'Allemagne en ruine. Il les accuse de ne pas avoir fait par l'écriture, donc pour les écrivains et les historiens, le travail de deuil qui est nécessaire pour comprendre les motifs d'une telle catastrophe et qui permettrait de reconstruire une mémoire nationale. La thèse a bien sûr été très controversée, hein, puisque tout le monde a dit que c'était faux, qu'il y avait eu des textes littéraires dessus, que Sebald manquait d'érudition, qu'il avait fait des erreurs dans sa recherche, etc. Comme il attaque aussi, puisque c'est quand même, il est quand même très provocateur dans cet essai, les familles, c'est-à-dire il dit dans les familles non plus, on n'en parlait pas, dans ma propre famille, entre mes deux parents, je n'ai jamais entendu parler des ruines de l'Allemagne, ni vraiment des dommages de la Seconde Guerre mondiale.
Pendant que la vieille garde des émigrés de l'intérieur se préoccupait essentiellement de renouer avec son prestige d'antan et d'invoquer en d'interminables formulations abstraites et emberlificotées l'idée de liberté et l'héritage humaniste occidental, la nouvelle génération des jeunes auteurs tout juste rentrés au pays était tellement préoccupée par le récit, souvent empreint de sentimentalisme, souvent larmoyant, de sa guerre, qu'elle paraissait à peine avoir Dieu pour les horreurs partout étalées devant elle.
Le tour de force de Sebald dans De la destruction, c'est qu'il pointe l'incapacité des écrivains allemands à faire une description de la destruction, mais il en fait une lui-même.
Romain Bonneau.
Notamment, il y a un grand morceau de bravoure qu'on peut appeler comme ça, un morceau de bravoure qui est lui aussi, moi je trouve, assez ambigu, sur la destruction de Hambourg, où finalement il décrit avec une certaine, j'irais jusqu'à dire une certaine volupté, la ville en proie aux flammes, le tourbillon engendré par l'énorme chaleur qui s'est dégagée du bombardement, les corps qui s'enfoncent comme aspirés par le sol, qui fondent littéralement avec le sol, le goudron qui se met à bouillir et à faire des cloques. Et cette description m'a toujours paru extrêmement saisissante. Et je me suis parfois demandé si Sebald ne faisait pas ce qu'il reprochait à d'autres écrivains allemands, c'est-à-dire à faire une forme de belle littérature ou de littérature un peu apocalyptique avec finalement cet épisode dramatique.
On the 13th, just after 10 p.m., RAF marker flares.
Bombardement de Dresde, 13, 14. 15 février 1945.
Il est difficile aujourd'hui de s'imaginer concrètement à quel point les villes allemandes ont été ravagées pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Et plus difficile encore de se remémorer l'horreur allant de pair avec ces dévastations.
Je pense que c'est quelqu'un qui était tellement pétri de culture que c'est une tentative de récupération de la culture en un monde qui n'est plus culturel.
Patrick Charbonneau.
Ce qui fonde sa mélancolie, c'est la perte des valeurs. La perte des valeurs qui s'est traduite de manière atroce, évidemment, avec la Shoah. Mais la Shoah n'est qu'une un phénomène paroxystique de ce qu'est la destruction du monde, à ses yeux.
Et donc il en sauve
Il sauve tout ce qu'il peut, pour lui, pour lui-même, mais aussi pour l'humanité, disons. Mm-hmm. Donc il n'écrit pas non plus de roman. On ne peut plus écrire de roman qui serait le reflet d'un monde cohérent et ordonné. Il écrit quelque chose qui n'est pas de la poésie, qui n'est pas de la prose, qu'il appelle une prose narrative.
Obgleich der Zürcher Maschine nur ein knappes Dutzend Reisende entstiegen waren, dauerte es am Flughafen von Ringway bald eine Stunde, bis unser Gepäck aus der Versenkung auftauchte, und eine weitere Stunde, bis ich die Zollabfertigung hinter mich gebracht hatte.
Bien que l'avion de Zurich n'ait libéré qu'une petite douzaine de passagers, il fallut attendre près d'une heure à l'aéroport de Ringway pour que nos bagages sortent de la trappe et une autre heure pour que je vienne à bout des formalités de douane. Car les fonctionnaires qui, à la sortie de la nuit, souffraient d'un ennui fort compréhensible, s'intéressèrent avec une patience et une précision confinant à l'irréel à ce cas, à l'époque plutôt rare, qui se présentait à eux, d'un étudiant, moi en l'occurrence, bardé de justificatifs, laissez-passer et autres recommandations, et prétendant vouloir s'installer à Manchester pour y poursuivre ses travaux de recherche.
Patrick Charbonneau, qu'est-ce qui a, selon vous, motivé la décision en 1966 de Sebald de quitter l'Allemagne et de finalement s'exiler en Angleterre?
Oui, il a 22 ans lorsqu'il part en Angleterre. Un petit peu par hasard, d'ailleurs, parce qu'il a répondu à une demande de poste, et ça s'est trouvé que c'était l'Angleterre, ça s'est trouvé que c'était Manchester, donc il part à Manchester. Il part à 22 ans, après avoir vécu à Wertach et à Zandhofen, à côté, la petite ville d'à côté, puis après avoir fait ses études secondaires avec le peintre Tripp, son ami d'enfance, il part, lui, à Fribourg étudier. Il est très déçu par la plupart de ses enseignants,
qu'il considère
comme des nazis. Et donc, il décide de quitter cette Allemagne du Sud, qui est pour lui encore fortement imprégnée de l'idéologie et de la mentalité, surtout, nationale-socialiste. Donc, c'est une volonté de quitter un passé qui est trop lourd, tout en gardant sur soi le poids de la responsabilité.
Il quitte l'Allemagne, mais il a toujours le mal du pays.
Oui. Mais quand il retourne en Allemagne, il a fait quelques tentatives, une fois à Saint-Gall et puis une autre fois, bon c'est en Suisse, une autre fois à Hambourg. Dès qu'il est en Allemagne, en fait, il a envie de repartir. Parce qu'il ne se reconnaît pas dans ce pays.
C'est une patrie impossible.
C'est une patrie impossible. Et la véritable patrie, en fait, c'est la patrie littéraire. C'est la langue. Un petit peu à l'instar des Juifs écrivains qui étaient assimilés et pour qui la patrie reste la langue allemande. C'est un phénomène similaire. Souvent, les gens qui ne connaissent pas bien Sebald disent « mais il est juif ». Non, il n'est pas juif. Mais il fonctionne sur ce même modèle d'exilés pour qui l'Allemagne n'existe plus en fait.
Ne peut plus exister.
J'ai reçu de lui une lettre extrêmement aimable où il me dit qu'il était à Hambourg parce qu'il était en train de lire un truc. Et il me dit, à cause de vous, j'ai raté mon train. Et j'étais extrêmement fier, mais c'était tellement... Es war so spannend, dass ich den Zug verpasst habe. C'était tellement intéressant que j'en ai raté mon train. Et j'avais fait paraître ma traduction allemande de mon autobiographie, Über die Flüsse, à travers les fleuves, une autre traduction, et je crois que c'est ça qu'il avait lu.
Georges Arthur Goldschmidt, vous venez de publier un livre qui s'appelle « L'esprit du retour » ou « L'esprit de retour ». Et il y a chez Sebald, exilé lui-même en Angleterre, dans ses livres, des tentatives pour retourner dans une patrie qui reste à jamais impossible. Est-ce que c'est ça, l'esprit de retour ?
Absolument. Et c'est justement cette espèce de... Vous voyez, je décris la gare de Jeumont à la frontière jadis, qui était un peu sale, négligée, avec des gendarmes dont les uniformes n'étaient pas tout à fait propres. C'était merveilleux. C'était... Le côté un peu cracra de la France était imminemment rassurant. À côté du luxe de l'Allemagne renaissante. Je parle des années 53-54. C'est très curieux. L'exil fonde, comment dirais-je, cette étrange situation qu'on ne peut plus jamais retourner dans le pays qui vous a exilé. On peut émigrer et revenir, mais un exilé ne peut pas revenir. Parce qu'il a été frappé. C'est très curieux. Les immigrés peuvent rentrer à tout moment, mais un exilé... Vous savez, il y a d'ailleurs très peu d'exilés qui sont rentrés. Il y en a. Mais probablement pour des... Ils devaient être aussi troublés, revenus d'exil, qu'en étant restés en exil. L'exil est une blessure inguérissable et pas terrible, mais qui ne vous lâche pas d'un poil tout le temps de votre vie.
Est-ce que vous diriez que Sebald a trouvé sa patrie dans sa langue, dans son œuvre?
Je le suppose bilingue, d'ailleurs. Il devait peut-être, s'il avait vécu, il aurait fini par écrire en anglais. La langue est toujours... Oui, la langue est une... Les langues sont des patries. Et l'Angleterre, c'est une espèce, excusez-moi de dire ça, une Allemagne civilisée, si je puis dire. C'est pour ça que Sebald s'y sentait si bien.
Quand on pense à l'île, moi je pense d'abord pas forcément à une île de petite taille, mais plutôt à l'île de Grande-Bretagne, celle sur laquelle il s'est réfugié. Hein, donc il y a cette dimension de refuge qu'on retrouve avec l'île de Saint-Pierre, sur laquelle Rousseau, à un moment près de Bienne, se retrouve lui aussi, et qui est le point de départ d'un des récits de séjour à la campagne. C'est aussi un mot qui revient, par exemple, dans la bouche du narrateur de Vertige, quand il parle d'une connaissance à lui qu'il doit rencontrer à Vérone, un certain Salvatore, qui, dit le narrateur, tous les soirs, en rentrant du travail, se plonge dans un livre. En l'occurrence, il arrive avec un livre de Sciascia, et il dit le livre était comme une île qui lui permet de s'isoler du monde. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme une volonté de retrait, d'isolement. D'ailleurs, récemment, j'ai retrouvé cette expression à propos de la bibliothèque Richelieu, où Jacques Austerlitz se retrouve donc à la fin du récit Austerlitz, enfin, où il raconte qu'il se retrouve, et il décrit la bibliothèque Richelieu comme une île des bienheureux ou une colonie pénitentiaire. Donc il y a cette double idée à la fois d'un refuge, mais d'un refuge qui peut être aussi une véritable prison, une sorte de cellule.
Il avait une chambre à Norwich très simple. Il avait juste un lit avec des très jolies photos, des très jolis cadres. Il avait une toute petite table minuscule pour travailler. Minuscule, il était la tête, grand comme il était la tête contre le mur. Des toutes petites fenêtres, alors que la maison était très belle et très grande surtout.
Alors justement, Romain Bonneau, dans votre blog, le mot-clé Norwich, qu'est-ce qu'on y trouve ?
J'y vois d'abord une fenêtre grillagée, celle par laquelle le narrateur des Anneaux de Saturne, au tout début du récit, voit le ciel et au bord de laquelle il essaie de s'accrocher pour essayer de contempler le monde en bas alors qu'il est en proie à une profonde dépression. Et c'est ainsi que ce lieu, Norwich, et l'hôpital de Norwich, devient un peu le centre de la dépression, l'œil du cyclone, qui ensuite fait tourner tout autour, qui attire à la fois le narrateur vers le monde et qui met en fait en branle le récit.
Mm-hmm. Il y a un autre mot-clé, le mot « hôtel ».
Oui, alors l'hôtel est le lieu par excellence des réfugiés, hein. C'est le premier endroit où on peut aller quand on n'est pas chez soi, et puis en même temps un lieu où l'on est piégé et d'où il est difficile de sortir. Au début de Vertige, le narrateur essaye de téléphoner justement d'un de ses hôtels, alors qu'il est en pleine dépression, et il dit une chose très belle de mémoire, hein, que c'est un silence d'une qualité particulière qui existe quand on téléphone à quelqu'un dans un pays où on n'est plus et que personne ne répond.
Theresienstadt, 1944, un film documentaire de la zone de colonisation juive.
L'œuvre de Sebald, on le sait, est une œuvre très particulière, alors pour plusieurs raisons. La première est qu'elle comprend de façon assez exceptionnelle des reproductions de photographies et d'images qui sont nombreuses à l'intérieur des textes. Et la deuxième raison est qu'elle crée une espèce de brouillage entre la fiction et la réalité historique, et le document. C'est une question qui se repose souvent quand on travaille des textes de Sebald en cours à l'université. Les étudiants commencent par demander « mais est-ce que c'est vrai ou pas ?» Enfin, qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire ? Et c'est réellement une partie du problème quand on lit du Sebald.
L'impossibilité de fixer plus précisément mon regard sur ces images qui en quelque sorte disparaissaient aussitôt qu'elles avaient surgi, dit Austerlitz, m'incita finalement à me faire confectionner à partir du fragment de Theresienstadt une copie, au ralenti, étirant la durée à une heure entière et de fait, dans ce document quatre fois plus long que depuis je n'ai cessé de me repasser, sont devenues visibles des choses et des personnes qui jusque-là m'étaient restées cachées. Exactement comme les pâles souvenirs et les rares autres indices qui me restent encore aujourd'hui me permettent d'imaginer l'actrice Agatha, oui, c'est exactement à cela qu'elle ressemble, me dis-je. Et je ne cesse de regarder ce visage qui m'est autant familier qu'étranger, dit Austerlitz. Je rembobine la cassette une fois, dix fois, et je vois le compteur dans le coin supérieur gauche de l'écran, les chiffres qui recouvrent une partie de son front, les minutes et les secondes, de 10.53 à 10.57, et les centièmes de seconde qui défilent, si vite qu'on ne peut ni les fixer ni les déchiffrer.
Theresienstadt était l'enfer, c'est une ville absolument libre, où les gens avaient toutes les libertés de mourir à l'intérieur. Il y avait une porte d'entrée avec quelques SS qui gardaient, les gens n'avaient rien à manger et attendaient d'être déportés à Auschwitz. Et mon père avait un carnet dans lequel il dessinait ce qu'il avait sous les yeux. Des convois de déportés, des visages, des gens assis. C'est terrible, et il ne se passe rien. C'est très proche de Zébal, c'est-à-dire, c'est de l'anonymat. Une phrase que, sous l'un des dessins de mon père, qui représente un professeur de médecine de l'université de Vienne, sous laquelle il y a marqué « Le professeur tel a échangé sa dernière paire de caleçons contre une cigarette. » C'est tout dire. Et ça, c'est une phrase, un personnage de Zébal aurait très bien pu dire ça.
Est-ce que vous êtes dit, Georges Arthur Goldschmidt, en lisant Austerlitz, par exemple, Austerlitz, c'est moi?
Non, je n'ai pas l'impudeur de dire ça. Moi, il ne m'est rien arrivé. J'étais préservé. Je n'ai même pas vu d'étoile jaune. J'étais dans un internat. Bon, non, je ne peux pas dire ça. Je
Mais
suis
Austerlitz
un resquilleur.
Mais Austerlitz a été comme vous, sauvé par un transport d'enfants.
C'est vrai, mais ça me gêne un peu de me mettre comme ça en avant par rapport à... Je suis un resquilleur de la vie. Mais Austerlitz n'a pas cette impression, au contraire. Austerlitz n'a à aucun moment l'impression de vivre indûment. Mmh. Austerlitz explore, comment dirais-je, puisqu'il a les différents personnages qui passent l'un après l'autre, il cherche comment les autres ont fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Comment aurais-je échappé au destin si j'avais été un autre? Comment vous dire? D'abord, Zébalt imagine cet enfant. Lui, ça ne le concerne pas. Et moi, j'ai vécu ça. Les Allemands sont venus m'arrêter, ils ne m'ont pas reconnu. Voilà, c'est ça la différence. C'est pourquoi, je vous remercie de t'attirer mon attention là-dessus, je vais le relire. Je n'ai jamais osé lire Austerlitz comme ça. Ça me rend tout songeur. Je l'ai lu comme si j'étais... J'ai laissé de côté ça. Tiens, ça, je vais le relire là.
En décembre 2001, 8 jours avant la mort tragique de Zébalt sur une route d'Angleterre, le journaliste américain Michael Silverblatt l'avait interrogé sur ce silence omniprésent qui hantait toute son œuvre.
In pursuing these ideas that it's practically impossible to write about concentration camps, in my view, is practically impossible.
Écrire sur les camps de concentration est, à mon avis, quasiment impossible.
Ways of convincing the reader that this is something that is on your mind.
C'est pour cela qu'il faut trouver des moyens de convaincre le lecteur que même si c'est une préoccupation qui vous taraude, cela ne vous autorise pas nécessairement à vous appesantir sur le sujet page après page.
The narrator has a conscience and that he is and has been perhaps for a long time engaged with these questions.
Il faut faire savoir au lecteur que le narrateur est doté d'une conscience et que depuis longtemps peut-être il se sent particulièrement concerné par ces questions.
Et
c'est la raison pour laquelle les principales scènes d'horreur ne sont jamais abordées directement. Je pense qu'il suffit de les rappeler au lecteur
Nous avons tous vu des images. Et ces images ont un effet pernicieux. Elles nous empêchent de penser de façon posée, réfléchie. Elles ont aussi tendance à anesthésier notre sens moral. Donc, à mon avis, ce n'est que de façon oblique, indirecte, par allusion, plutôt que frontalement, que l'on peut aborder de telles questions.
Alors, mon image sébaldienne, ce serait celle du conteur comète. C'est une comparaison que fait Sebald entre le conteur et la comète. Il dit que le conteur, comme la comète, regarde le monde et sa violence avec compassion et indifférence. Et cette compassion et cette indifférence-là, je pense, ce mélange-là fait la très grande force du texte sébaldien.
Les émigrants, c'est un livre en 92 qui a fondé le succès de Sebald, d'abord aux États-Unis, un immense succès, et puis bon voilà, après en Europe. Et
Ruth Vogelklein.
Sebald raconte 4 histoires et 3 ce sont des biographies juives, mais qu'il transforme de façon littéraire. Il ne faut surtout pas croire que les biographies décrites dans Les Émigrants, ce sont des récits documentaires. Sebald en fait de la littérature, il ajoute des images, il ajoute des commentaires, il transforme les faits, hein, ce n'est pas du tout finalement factuel. Mais ce qui est très fort, c'est cette posture d'empathie et de partage par rapport à ses destins douloureux. Il a toujours comment, une distance qui montre que ce n'est pas lui qui s'approprie les destins de ces rescapés de la Shoah, mais il essaye de transmettre leur histoire.
Ces fictions réalistes donnent toujours pour tâche hein, de mettre en place une restitution d'une vie, d'une identité, d'un nom, quand bien même imaginaire. Hein. C'est redonner, essayer de redonner à des visages anonymes quelque chose comme le degré élémentaire de la dignité humaine, hein, c'est-à-dire un nom, une histoire, quelques dates.
Oui, on est frappé, Muriel Pic, par les dons, les legs qu'il y a dans les œuvres. Le narrateur reçoit des albums, on lui offre des photos, il se procure des carnets. Il y a tout un système de dons et de cadeaux dans les écrits de Sebald.
Oui, il est vraiment celui qui vient récolter, collecter, sauver, faire survivre. C'est aussi le passeur, hein, c'est aussi celui qui va... restituer quelque chose qui aurait pu sombrer dans l'oubli, en fait. Hein. C'est lui aussi qui est chargé, après, de compter ce qui a eu lieu et surtout d'articuler cette vie, disons, microscopique, hein, cette histoire par le bas, aux grands événements historiques. Hein. C'est lui qui articule les deux échelles, microscopique et macroscopique. Hein. Le désastre... le plus grand des désastres et le plus insignifiant, le plus petit. Hein.
Et donc, le lecteur est sans cesse pris en quelque sorte de vertige parce qu'il balance sans cesse entre du monumental et du très petit. Et donc, il y a toujours cette ambivalence. L'un n'existe que par l'autre. Et comme il le dit quelque part, mais il le dit toujours d'autres personnes, parce que finalement, en décrivant d'autres écrivains, d'autres peintres ou même des paysages, c'est souvent sa prose même qu'il décrit, hein, quand il dit de Thomas Brown, par exemple, que sa prose, quand on lit sa prose, c'est comme si on avait l'œil collé à une longue vue retournée et à la fois un microscope. Bon, je pense que la prose de Sebald est exactement de la même nature. C'est-à-dire, on a l'impression d'éloignement et puis on a à la fois tout le détail. Et c'est cette ambivalence-là qui, à mon avis, est fondatrice.
L'écriture est très mélancolique et laisse toujours aussi des blancs. Sebald ne va pas jusqu'au bout d'une biographie, il ne raconte pas tout. Il y a des choses non dites et ça donne une dynamique incroyable à son écriture. C'est qu'il y a ces vides, ces espaces blancs Et cette volonté de créer des zones d'indétermination se voit aussi dans le floutage des photos. Contrairement à l'idée que Sebald prouve la véracité de son écriture par les photos, il nous pose des énigmes, il nous laisse un peu dans l'incertitude de la vérité, de la véracité, et c'est au lecteur aussi de remplir ses blancs et de reconstituer les destins. Et on peut dire que la restitution littéraire, c'est aussi un travail actif du lecteur ou de la lectrice.
Patrick Charbonneau, quel était le rapport de Sebald à sa langue maternelle, la langue allemande ?
Sa langue maternelle, je dirais plutôt sa langue grand-paternelle, si vous voulez, puisque c'est son grand-père en grande partie qui l'a élevé. Donc c'est la langue dans laquelle il a vécu enfant et c'est la langue qu'il a conservée. Il vivait en Angleterre, comme vous le savez, depuis 1966, grosso modo, hein, 66-67. Donc il parlait couramment évidemment l'anglais, mais il n'a jamais écrit en anglais. Il a toujours écrit en allemand. Et sa langue est une langue empreinte énormément des auteurs qu'il a lus. Elle est à la fois dialectale, régionale, et Hochdeutsch, c'est-à-dire la grande langue allemande du 19e siècle. Mm-hmm. Comme on n'en fait plus guère.
Vous vous êtes sans doute arraché les cheveux avec certains termes.
Certains, oui. Mm-hmm. Heureusement, l'auteur était là, donc on a beaucoup échangé sur ces histoires de langue et de mots vraiment dialectaux ou locaux.
Mm-hmm. Il y a l'exemple de l'épingle à nourrice.
L'exemple de l'épingle à nourrice, effectivement, oui. Là, il a employé un mot qui n'était pas du dialecte vraiment de l'Allgäu, mais était plutôt du dialecte suisse, Schweizerdeutsch. Et en fait, c'est sa sœur, la sœur de Sebald, qui a trouvé la solution en employant un mot qui est employé en Suisse romande, l'imperdable, voilà. Une épingle à nourrice qui devient imperdable.
Il y a aussi des indices qu'il vous glisse apparemment dans les enveloppes pour vous aider à mieux comprendre.
Oui, absolument. J'ai toute une petite collection de cartes postales, de feuilles, d'arbres. Puisque tel arbre dont il parle au début des émigrants n'existe pas, il a inventé un mot, les lauriers lusitaniens.
Lauriers lusitaniens,
ça ressemble à des laurines, mais ce n'est pas une laurine. Donc il m'a envoyé une feuille spécifique pour me montrer que c'était ça qu'on trouvait en Angleterre et qu'il a baptisé d'un nom tout à fait à lui. Donc c'est une simple adaptation sur laquelle je me suis cassé la tête, évidemment, en allant chercher dans les livres de botanique ou en faisant mes enquêtes, jusqu'au moment où il me dit « mais non, c'est tout simplement ça, j'ai inventé un mot parce qu'il sonne bien ».
Bien des curiosités figurent au catalogue, parmi lesquelles on retiendra, entre autres, le couteau à circoncire de Josué, la bague de la bien-aimée de Propers, des grillons et des lézards d'agate polie, un essaim d'abeilles en or, des opales bleues, des broches et des boucles en argent, des peignes, des pinces et des aiguilles de fer et de cornes, ainsi qu'une guimbarde en cuivre qui avait résonné pour la dernière fois lors de la traversée de l'eau noire. Et parce que la plus lourde pierre de la mélancolie est la peur de la fin inéluctable de notre propre nature, Brown, considérant ce qui a échappé à l'anéantissement, se lance sur les traces de la mystérieuse faculté de transmigration qu'il a si souvent étudié chez les chenilles et les papillons.
Ulrich von Bülow dirige le département des archives littéraires de Marbach en Allemagne. Il a lui-même répertorié les 68 boîtes qu'on a retrouvées après la mort de l'écrivain. Coupures de presse, images, photos, lettres.
Was ist sozusagen das Faszinosum an einem Original?
Qu'est-ce qui fascine tant Sebald dans le document original? Et pourquoi cherchait-il à donner l'impression que la plupart des choses qu'il inventait étaient authentiques? Sebald ressentait très fortement la puissance de l'authentique, son aura. C'est de là, je crois, que vient sa fascination pour les documents originaux.
Mais il ne faudrait pas croire pour autant que chez lui, tous les documents qui ont l'air authentiques ou qui doivent donner l'impression de l'être le soient réellement. C'est le cas par exemple de cette page manuscrite reproduite dans Les Émigrants, dont le narrateur prétend qu'elle est extraite du journal de son grand-père émigré à Jérusalem. Eh bien, si l'on y regarde de près, on reconnaît l'écriture de Sebald. Il a donc écrit de sa propre main sur les pages vierges d'un vieux carnet, ce qui sera ensuite considéré comme le journal authentique d'un grand-père.
Son grand-père revient dans beaucoup de ses textes, dans Vertige, dans Camposanto, dans Séjour à la campagne, dans ses essais critiques. On a l'impression qu'il est constamment en train de se rattacher à ce personnage et même de s'y identifier, par exemple, dans une nouvelle « Ritorno in patria », il retourne sur les lieux de son enfance, à Vertar, et il dit à personne qu'il a grandi dans ce village, et quand il rentre dans le village, un des anciens l'a reconnu à la façon dont il regardait le ciel. Et il dit « En fait, il n'a pas pu me reconnaître, petit enfant, mais il a reconnu en moi la figure de mon grand-père. » Et finalement, on peut dire que cette figure de grand-père est liée à son écriture. Et là, je dois ouvrir deux tiroirs. Le premier tiroir, c'est un petit poème, parce que Sebald a écrit des poèmes, comme des petits haïkus, qui sont assez hermétiques. Et par exemple, « Das Schreibpapier riecht » wie die Hobelspäne im Sarg. Donc en substance, c'est le papier sur lequel il écrit à l'odeur des copeaux de sciure qui se trouvent dans un cercueil. Et là, on voit très bien que l'écriture de Sebald est reliée à la mort. Il y a un lien très fort avec la disparition, le deuil, la mort. Et en cherchant un peu, là j'ouvre le deuxième tiroir, j'ai trouvé un poème en anglais, enfin un peu le même poème, mais une version différente, où Sebald a deux lignes de plus. Et alors, le cercueil dans ce poème devient le cercueil du grand-père. « The smell of my writing paper puts me in mind of the wood shavings » in my grandfather's coffin.
Il y a dans la prose de Sebald tout un tas de ce que Thomas Bernhard appelle des frères de papier, c'est-à-dire d'autres écrivains avec qui il tisse des airs de famille. Kafka, Walzer, Bernhardt, etc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que pour vous, Georges-Arthur Goldschmidt, Sebald serait comme une sorte de frère de papier?
C'est une belle question. Oui, à côté de mon jumeau, qui est Carl Philipp Moritz, et son extraordinaire Antoine Reiser, mais absolument. Mais disons, il est pour moi un cousin, Sebald. Sebald écrit l'allemand de l'Europe centrale telle qu'elle a été mise à mort par la langue hitlérienne, qui a dévasté l'allemand presque à tout jamais. Il écrit une langue à la fois complexe et simple, c'est-à-dire le vocabulaire est universellement accessible, sauf quelques dialectes, quelques particularités, mais il ne cherche nullement à coincer le lecteur. Et Sebald, c'est le monde de l'autre. Il n'y a que des autres chez Sebald, ce qui est assez rare d'ailleurs dans la grande littérature allemande. Il y a certains livres, Kafka disait, ceux qui vous brisent la mer gelée, et c'est-à-dire, on est soi-même l'auteur, on devient dans le livre. Et ça, c'est très particulier à Sebald. Mais c'est une belle expression, un frère de papier, absolument.
En ouvrant un journal, je tombe sur V.G. Sebald, qui venait d'avoir le prix féminin en France, avec les émigrants. Alors, j'ai écrit une petite lettre à Actes Sud, en leur demandant de passer ça à leur auteur. Et donc, ce qu'ils ont fait, mais j'avais été très timide, parce que j'avais juste mis, paraît-il, dans un très mauvais allemand, que est-ce que par hasard tu te souviens, enfin vous vous souviendriez, hein, parce que voilà, d'une des petites françaises que vous appeliez la grenouille insolente, c'était mon surnom. D'accord, voilà. Et bien elle a répondu dans les deux jours. C'est fantastique quand même quand on y réfléchit. A eu du mal à discuter, à réamorcer quelque chose. Et à un moment donné, je veux faire la brave et là, hein, et je dis, oh, j'adore les Monty Python. Les quoi? Alors, les Monty Python. Alors là, il avait pris l'habitude fâcheuse des Anglais. Il répète et vous avez l'impression que vous avez dit que c'est exactement la même chose. Ah, les mains, c'est pas attendre. Oui. Alors, il dit d'un ton très sentencieux. Or, ben, quand je suis arrivée en Angleterre, je ne les aimais pas du tout. Je trouvais que c'était le genre d'humour. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris de façon irrépressible. Je lui dis, ah ben ça, c'est bien un truc de sale chleu. Et lui me suivait très bien, parce que c'est là que l'Angleterre l'avait énormément fait du bien. Il a penché la tête, très indulgent. Il a dit, mais écoute Marie, tu vas me dire ce que c'est qu'un sale chleu? Alors du coup, moi, j'ai trouvé que j'étais bien hardie et je lui dis, écoute, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça, c'était quand même un peu agressif de ma part. Alors écoute, j'ai des circonstances atténuantes, je sais très bien que t'es fils de colonel allemand et moi, je suis l'enfant posthume d'un résistant qui a été torturé et assassiné par les SS. Quoi? Mais tu ne l'as jamais dit quand on était à Sandhoven? Je dis, mais arrête, quand on avait 12-13 ans, on avait d'autres préoccupations. Écoute, toutes les familles étaient quasiment monoparentales. Alors, qu'est-ce que j'allais la ramener que dire ça? Je trouve que ça aurait été indélicat de ma part.
Romain Bonneau, il y a très peu de femmes, il y a très peu de scènes de désir, de très rares scènes sexuelles. Est-ce que pourtant la prose de Sebald est sensuelle?
Il y a toujours un écran entre les hommes et les femmes dans les livres de Sebald, et cet écran, c'est le souvenir traumatique de soit de la Seconde Guerre mondiale, soit des camps, de la destruction ou de l'exil. Et que toujours... ce souvenir traumatique prend le dessus sur et empêche véritablement une relation amoureuse authentique. Et donc, quand il y a des personnages féminins et qu'un début d'amour pourrait naître, c'est souvent pour en montrer l'incomplétude en raison de cet écran du traumatisme qui occupe souvent l'esprit des personnages ou du narrateur lui-même. Si je voulais te donner un des meilleurs exemples de sensualité, ce serait peut-être le passage où Jacques Austerlitz est avec Marie de Verneuil à Marienbad et où ils vivent des heures extrêmement heureuse de complicité et où rien n'est jamais dit sur la nature exacte de leur relation, rien n'est dit sur la nuit qu'ils ont passée. Et cette scène pleine de tact et de retenue est pour moi l'une des plus sensuelles dans l'œuvre.
Qui sait ce qu'il serait advenu de moi si un infirmier du nom de Quentin Quignard, à l'œil vif et à la chevelure d'un roux flamboyant, avait découvert dans mon calepin, sous les initiales à peine lisibles M2V, l'adresse du 7 de la place des Vosges, que Marie, après notre première conversation dans le café sous les arcades du Palais Royal, avait inscrite dans un espace resté vacant entre deux de mes annotations.
Marie, dans un des livres de Sebald, l'un des derniers, Austerlitz, Il y a un personnage de femme qui apparaît vers la fin du livre et qui s'appelle Marie de Verneuil. Vous vous appelez Marie, est-ce qu'il y a une coïncidence ?
Effectivement, Max m'avait demandé la permission de mêler des éléments de mon histoire personnelle. Et dans Austerlitz, on retrouve énormément. Il a mélangé, par exemple, Jacques Austerlitz et aviateur. Il savait, parce que je lui avais appris, que mon père s'était engagé dans la résistance avec l'histoire du grand fracas de 39, la défaite de l'armée française. Et mon père avait un avion personnel. Donc il a passé des gens du côté de Quingé, près de Besançon. Et ça, c'est une histoire vraie de mon père. Donc, et la Picardie, c'est pareil. Donc on trouve intriqué, comme il aimait le faire, l'histoire de plusieurs vies. Alors effectivement, je suis bien Marie de Verneuil. Et quand je lis ce qu'il a écrit sur moi, je suis profondément émue.
Est-ce que Marianne Bade a existé, Marie de Verneuil ?
Alors, pas du tout. Marianne Bade n'a pas du tout existé. Là, on retrouve l'espèce de tissage très habile que faisait Max. Non, non, ça n'a pas du tout existé. Non, 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 non.
W.G. Sebald par Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau. Avec Romain Bonneau, créateur du blog Norwich consacré à Sebald, Ulrich von Bülow, directeur des archives littéraires de Marbach, Lucie Campos, auteur de Sebald, fiction de l'après, Patrick Charbonneau, traducteur de Sebald, Georges-Arthur Goldschmidt, traducteur et écrivain, Muriel Pic, auteur de Sebald, l'image papillon, Ruth Vogelklein, spécialiste zébaldienne de la toute première heure, et la participation exceptionnelle de Marie de Verneuil. Attachée de production, Laurence Genepin. Texte lu par Stéphane Valency. Archives. Entretien de Sebald avec Michael Silverblatt, 6 décembre 2001. Sebald lit les émigrants, Hörgold, 2000. Theresienstadt, un film documentaire de Kurt Géron, 1944.
Je me souviens très bien qu'on ait discuté sur la mort tous les deux, et me souviens de lui avoir dit « Écoute, de toutes les façons, on ne meurt pas, parce que on reste dans la mémoire et le cerveau de l'autre. » Et il avait dit « Mais tu sais, c'est ce que je raconte dans mes livres. »
Remerciements à Patrick Gray, Nathalie Salle, Martina Warendorf et Ruth Vogelklein. Reportage Fabien Gosset. Enregistrement et mixage Olivier Dupré.
W.G. Sebald dans Une vie, une œuvre aujourd'hui. Un grand merci à Christine Le Cerf et Jean-Claude Loiseau pour cette émission que vous pouvez télécharger pendant un mois et réécouter en ligne pendant 1000 jours. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux si vous souhaitez vous tenir au courant de la programmation. La semaine prochaine, l'histoire d'un voyageur, marchand, anthropologue, également grand commis de l'État auprès de l'empereur mongol Kubilai Khan. Un homme aux multiples vies, en somme, je veux parler évidemment de Marco Polo.